Bonjour.
Alors avec ce livre, vous poursuivez votre réflexion sur le libéralisme. On citera vos trois derniers ouvrages, toujours chez De Noël, « L'art de réduire les têtes »,« Le divin marché » et « La cité perverse ». Depuis la semaine dernière, on tente donc dans cette série de définir de quelle manière nous serions individuellement affectés par la situation de crise prolongée que nous connaissons. Avant donc de parler de cet individu qui viendrait après le libéralisme, un petit point du point où nous en sommes. Comment la situation de crise nous affecte-t-elle individuellement ?
Écoutez, je pense que cette situation de crise affecte directement les modalités de subjectivation, affecte directement le sujet. Pourquoi ? Parce que nous vivons maintenant dans une culture qui est une culture caractérisée par le fait que nous sommes entrés dans la postmodernité. Je répète rapidement la définition de la postmodernité. C'est la sortie des grands récits en tant que tels répressifs, donc qui mettaient un certain nombre de freins, et l'entrée dans un nouveau récit, on pourrait dire, que j'ai appelé le divin marché, qui lui se présente comme un récit plutôt incitatif.
Donc, alors là, vous allez un peu vite, peut-être, puisqu'on en est là. Les grands récits, c'était quoi, les récits essentiellement monothéistes?
Alors les récits, c'était les récits de l'Antiquité, le récit d'élévation de l'âme dans l'Antiquité grecque, les récits monothéistes, ça c'est pour l'Antiquité. Pour la période moderne, à partir des Lumières, c'est les récits d'émancipation politique, comme par exemple Marx, ou d'émancipation individuelle, avec l'assomption, l'apparition d'un sujet critique, par exemple le sujet kantien, critique, capable donc qui sait délibérer et agir par lui-même. Voilà, alors ça c'était des idéaux de la culture occidentale qui se sont succédés tout au long de l'histoire, et donc l'hypothèse qui a été faite maintenant il y a une trentaine d'années par Jean-François Lyotard, philosophe de mon université, c'était la chute donc de ces grands récits et l'entrée dans une période nouvelle.
Est-ce qu'il y a un nouveau récit alors, celui du marché?
Oui, alors, bon, l'hypothèse de Lyotard, c'était c'est fini, il n'y a plus de grands récits, donc nous naviguons à vue. La mienne est un peu différente. Je pense que ça ne veut pas dire que je conteste ce qu'a dit Lyotard, mais ça veut dire qu'on est 30 ans après ce qu'il a dit, qu'on voit peut-être les choses un peu mieux que lui, puisqu'on voit que concomitamment à cette chute des grands récits, il y en a un nouveau qui s'est présenté, qui est le récit donc du ce que j'ai appelé le marché, le divin marché. Pourquoi c'est un grand récit? Ben parce qu'il porte une promesse, qui est une promesse de richesse infinie. Donc c'est le remède à tous les maux. C'est ceci qui va nous tirer de toutes les problèmes, puisque la richesse donc va pouvoir être garantie et promise. Donc c'est une promesse.
Quel est l'argument principal de ce grand récit du marché? Comment qu'est-ce qu'il dit précisément pour garantir ces promesses?
Il tient dans un énoncé qui a été, on n'oserait plus dire les choses comme ça maintenant, mais l'intérêt de se plonger dans les textes fondateurs du libéralisme, en tout cas du XVIIIe siècle, c'est de voir que des propositions sont crûment avancées. Et je pense que celle qui résume le mieux ce que je veux dire, c'est la proposition de Mandeville, les vices privés font la fortune publique. Donc libération, puisque c'est ça que je veux dire, donc nous sommes plus dans un récit oppressif ou répressif.
On peut exprimer ses vices, au contraire.
Voilà, il faut exprimer ses vices, amour de soi, avidité, etc. Ça va faire le bonheur de tout le monde. On pourrait prendre quantité d'exemples pour montrer que, par exemple, le voleur, grâce au voleur, il y a des avocats, grâce à l'avocat, il y a du droit, grâce au droit, il y a des facs de droit, grâce au voleur, tout ça c'est grâce au voleur, et c'est grâce au voleur aussi qu'il y a des prisons, donc tout ça fait marcher, le vice donc du voleur apporte la richesse à la société.
Et Adam Smith aussi comptait sur le vice de son boucher.
Oui, absolument, oui, sur l'égoïsme de son boucher. Voilà.
Pour être bien servi. C'est
voilà,
ça
voilà, voilà, il disait si vous êtes bien servi, comptez plutôt sur l'égoïsme de votre boucher qui vise son intérêt personnel avant d'être sympathique avec vous.
Alors voilà, bon, quelques mots, évidemment, il faut voir vos livres pour voir ça plus dans le détail. Résumé du passage de ces grands récits anciens au nouveau récit, oui. Peut-être petit ou grand, je ne sais pas, du marché, en tout cas du grand marché.
Oui, c'est ça.
Vous voudrez revenir sur l'affectation dont vous parliez, sur les subjectivités, et vous donnez un chapitre assez développé dans votre livre sur les identités, c'est-à-dire que ce nouveau récit du marché aurait changé notre subjectivité, en ce sens qu'il s'est chargé de la réalisation, dites-vous, d'un programme post-identitaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, bah écoutez, ça veut dire que nous sommes passés, donc je reprends brièvement, nous sommes passés de culture répressive à de culture incitative, donc qui place le sujet, non plus dans la position où il était avant, qui avait été énoncée, découverte au début du XXe siècle par Freud, c'est-à-dire s'il y a de la répression, il y a du refoulement, et donc s'il y a du refoulement, il y a du refoulement qui sort, et donc nous sommes tous névrosés. Voilà la grande découverte freudienne. Voilà. Je crois que la situation a changé par rapport, disons, à l'époque 1900, ça a changé. Puisque nous sommes à l'époque 2000, pour donc prendre des grands repères, puisque dans cette culture incitative dans laquelle nous sommes, il ne faut, la névrose n'est plus une bonne chose, puisque la névrose, c'est la culpabilité, c'est le fait qu'on croit toujours faire mal, etc. Ce qui apparaît maintenant, c'est au contraire l'idée qu'il n'y a pas de limite à ce que peut vouloir le sujet. C'est-à-dire que nous sommes passés, disons, d'un sujet névrotique à un sujet pervers, celui-ci que produit la culture maintenant. C'est un sujet pervers, c'est-à-dire un sujet qui ne veut pas renoncer à toutes les formes d'avidité, qui va ne pas renoncer à l'instrumentalisation de l'autre, qui ne va pas renoncer à mentir ou à faire des coups sophistiques pour arriver dans toutes circonstances à ses volontés. C'est donc un sujet qui se définirait plutôt comme un sujet pervers, mais pas au sens de la grande perversion d'autrefois. C'est un pervers ordinaire, c'est un pervers de tous les jours, et on en voit pas mal dans nos sociétés.
Mais justement, et ces pervers qui ne sont pas forcément heureux, évidemment, du fait qu'ils appliquent ce programme.
Ben oui, bien sûr.
Et c'est ce dont on peut dire que la souffrance qu'on peut ressentir aujourd'hui, ou le malaise, vient surtout de là, vous pensez ?
Ben, ça vient de là, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui réussissent, on voit à quel prix, c'est même tellement inscrit ceci dans la culture que ça a pris des noms au niveau de... Ça a pris des formes, des figures. On peut penser, par exemple, aux tendances à l'époque Bunga Bunga, à l'époque Bling Bling, qui c'est l'affirmation comme ça d'un fonctionnement pulsionnel, désinhibé, de celui qui donc est capable, qui est complètement désinhibé, qui est capable donc d'affirmer une sorte de toute puissance. On l'a vu aussi dans d'autres domaines, avec donc des docteurs de la finance qui étaient capables aussi dans leur vie par ailleurs d'avoir des fonctionnements pulsionnels je ne vous fais pas de dessin, vous voyez probablement ce que je veux dire. Donc c'est ça la culture actuelle, c'est une sorte d'incitation pulsionnelle. C'est plus une répression, c'est une incitation pulsionnelle.
Parlons directement, cette affaire Strauss-Kahn, ça vous paraît vraiment être emblématique de ce qui
se
passe ?
Oui, absolument.
Sans parler du personnage, évidemment. Lui-même,
non, mais je n'ai rien à dire sur le personnage, mais ça me semble extrêmement emblématique parce que ça me semble parfaitement correspondre au fonctionnement d'une libération pulsionnelle, d'une désinhibition totale, qui peut prendre différents aspects, c'est l'avidité, c'est le côté d'une recherche effrénée de jouissance, c'est l'affirmation de sa propre loi dans tous les domaines. Donc c'est ça, si vous voulez, qui caractérise un peu notre époque. Alors, le problème, c'est que cette jouissance recherchée, c'est pas le désir, comme on disait à l'époque freudienne. C'est pas le désir, c'est quelque chose qui s'épuise assez vite et qui implique donc qu'on y revienne et que ça se répète assez souvent. C'est comme quand on est addicté. Quand vous aimez le vin, c'est bien, mais quand vous voulez répéter vos petites jouissances, vous devenez accro et vous devenez alcoolique, vous devenez addicté. Et je crois que le pendant donc de cette perversion ordinaire qui est très manifeste dans notre culture, c'est la manifestation de formes d'addiction. Pour reprendre à nouveau le même exemple, puisqu'on a prononcé le nom d'addiction à propos du personnage dont nous parlions, addiction sexuelle par exemple. Mais il y a toute une série de formes d'addiction. Ça se diffuse aussi bien parce que le marché propose toujours, c'est de l'instance qui est toujours capable de vous proposer un objet manufacturé, un service marchand ou un fantasme sur mesure pour satisfaire toutes vos appétences, quelles qu'elles soient. Et c'est ceci qui est déversé constamment par les industries culturelles. Donc ça touche pas simplement nos grands dirigeants, ça touche tout le monde. Ça touche aussi les plus jeunes, par exemple. Les plus jeunes qui sont aussi bien maintenant addictés aux jeux vidéo, addictés accro au téléphone portable, etc.
Tout simplement à l'alcool aussi.
À l'alcool aussi. Par exemple, la drogue a pris quand même des dimensions dans nos sociétés importantes. Donc tout ça, ce sont des formes d'addiction qui entraînent de nouvelles formes de souffrance. Et je crois aussi qu'il y a une autre forme de souffrance importante, c'est par rapport à ceux qui ne réussissent pas donc à avoir ce fonctionnement qui est cohérent ou qui est adéquat à la culture actuelle, c'est une espèce de sentiment de ne pas y arriver, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de pas être capable d'avoir le fonctionnement que tout le monde a.
Il y a un peu un paradoxe, là, c'est-à-dire sans limite et en même temps oui, pas sans sentir limite, à la hauteur
mais,
du sans limite.
Mais oui, c'est ça. Il est, puisqu'il est appelé à être sans limite, s'il n'y arrive pas, il déchoit par rapport à l'idéal, qui est l'idéal de la culture. C'est ce qu'on appelle la dépression. Dépression, c'est quand même 30% de nos populations, mais le marché, là encore, propose des petites pilules et des molécules pour...
Alors, dernière question, vous demandez un droit de retrait par rapport au marché, comme un salarié qui se retirerait d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent, selon l'expression juridique, pour sa santé et sa vie. Comment exercer ce droit de retrait
Écoutez, je pense qu'il s'exerce d'ores et déjà de façon multiple. Il y a des gens qui se retirent en faisant le minimum, ils n'y croient plus, ils ne participent plus à ce fonctionnement qui est devenu difficile à supporter pour eux, parce que c'est toujours plus de compétition, toujours plus de performance. Donc il y a ceux qui font le minimum, il y a ceux qui tentent d'autres expériences. On peut penser à ceux, par exemple, des écolos, de la décroissance ou d'autres formes. Puis il y a ceux, encore une fois, qui ne sont rien de tout ça, mais qui n'y arrivent pas, ceux dont je parlais tout à l'heure, les déprimés, si vous voulez. Il y en a beaucoup qui se sont retirés. Et puis il y a les formes radicales de retrait qui sont, par exemple, ceux qui se retirent, comme les salariés de France Télécom, et qui se retirent carrément du jeu parce
Denis Robert Dufour, on poursuit cette séquence donc en essayant d'approfondir un peu ce qu'on a laissé peut-être un peu de côté tout à l'heure, c'est-à-dire ce que vous appelez la sortie de l'identité ou le programme post-identitaire. Ça veut dire notamment l'effacement des différences, leurs différences hommes-femmes, différences animaux, hommes-animaux, etc. Et ça, c'est central dans ce programme post-identitaire ?
Oui, je crois que c'est central. Ça a été annoncé, postulé par... aux prémices de des philosophies postmodernes. Je pense par exemple à des grands philosophes qui à l'époque étaient enthousiastes dans ce programme. Par exemple, on peut penser à Deleuze, donc j'ai beaucoup lu, pratiqué, etc. Mais dont on voit peut-être maintenant les limites. Il est temps de réfléchir à ce que ça donne 40 ans après. Parce que maintenant, c'est en train de se réaliser, justement, ce programme post-identitaire. Alors, on a affaire à un sujet qui est un sujet sans limites. Un sujet qui, se donne absolument tous les droits. Et il se donne aussi bien, par exemple, vous savez, le fait que, par exemple, vous parliez de la différence sexuelle, mais le fait qu'on ne se trouve pas bien dans son sexe, ça arrive. Ça arrive depuis la nuit des temps, ça arrivera encore, et il n'y a rien de plus normal. On n'a pas demandé à tomber d'un côté ou de l'autre, on y est, et on peut s'y sentir bien ou on peut s'y sentir mal. Bien. Et donc, quand on s'y sent mal, et ben, on adopte d'autres positions que celles dans lesquelles on est tombé.
Donc,
ça, il n'y a rien de plus normal. Le problème donc, ce n'est pas un problème avec, disons, l'homosexualité. Je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Chacun a la sexualité qu'il peut et qu'il veut. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Mais je crois qu'on va beaucoup plus loin maintenant, parce que ce droit a sans limite, au fait que le sujet se donne tous les droits, c'est aussi bien l'idée qu'il peut changer de sexe s'il le veut. Hein ? Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'écrits, de théories qui soutiennent donc ce point de vue, et que ceci est extrêmement problématique parce que, alors là, je vais peut-être jouer le rôle d'un peu d'un rabat-joie, mais je suis désolé, mais il est impossible de changer de sexe. C'est pas parce que vous faites couper ou ajouter les bouts nécessaires pour que vous ressembliez à
pourquoi vous
ce
dites
que
ça
vous voulez. Que...
Fondamentalement, pourquoi ?
Ben, parce que rien de, par exemple, de votre détermination en XX ou XY, à supposer que ceci soit les déterminants de la sexuation, ne changeront. C'est parce que ceci restera exactement
ouais, il faut
pareil.
Pas confondre...
Ce qui va changer, c'est votre paraître, c'est votre look qui va changer, mais votre être... Il restera toujours le même. Vous avez beau prendre...
Sauf si vous considérez que l'existence précède l'essence.
Bien sûr. Écoutez, je pense qu'il est quand même difficile de nier que nous naissons d'abord et puis qu'ensuite nous parlons. Nous ne parlons pas d'abord et nous ne naissons pas ensuite. Donc je pense que, en tant que... si nous naissons, si nous sommes vivants, la détermination de notre espèce, c'est la différence sexuelle. Nous sommes dans une espèce sexuée.
C'est indépassable, alors.
C'est complètement indépassable. On peut s'arranger avec, encore une fois. Il y a des tas de modes, parfois brillants. On peut le faire avec un grand brio pour s'arranger avec ce qui ne nous convient pas. Mais de là à dire qu'on peut changer de sexe, je ne le crois pas. Je crois que c'est un leurre, et je pense qu'on parlait des souffrances tout à l'heure, mais je pense que ceux qui s'engagent pour soutenir le fantasme, parce que c'est ça, si vous voulez, le programme post-identitaire, c'est l'idée qu'on va pouvoir soutenir le fantasme jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer le réel même duquel nous procédons, par le fait que, de soi-même, on ne veut plus ceci. Je crois que ceux qui s'engagent dans cette voie s'engagent dans des souffrances infinies des malheureux. Hein. Et donc, je pense que... Et il y en a pas mal qui... donc, c'est même un horizon, si vous voulez. Dans ce livre, je commente un certain nombre d'articles qui sont parus dans la très grande presse, hein, où maintenant, il y a à destination des jeunes, des adolescents, des programmes qui incitent donc au choix... pas simplement au choix de son genre, parce que ça c'est normal, le choix de son genre, mais au choix du sexe. Vous voulez, si vous êtes un homme, si vous voulez devenir une femme, il n'y a pas de problème. Et je crois que ça encore, ça diffuse l'idée d'une toute-puissance imaginaire des individus dans notre société qui est hautement dommageable.
Il y a un deuxième effacement dont vous parlez également, celui entre les hommes et les animaux. Alors là, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit forcément de la toute-puissance. Et par ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir... Ça s'est beaucoup développé, on l'entend, il y a des tas de couvertures de magazines. Oui. Donc il faut que cette frontière-là soit abolie.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se présente et pourquoi est-ce que ça serait nécessaire pour le programme, en fait?
Écoutez, nous fonctionnions sur toute l'anthropologie du XXe siècle, la grande anthropologie du XXe siècle, fonctionnait donc sur la différence de la nature et de la culture, une différence irréductible de la nature et de la culture. Nous étions dans un programme dualiste, si vous voulez. La nature, nous avions une part de nature, je viens de le dire aussi, mais nous étions aussi, nous, en tant qu'êtres humains, dans la culture, puisque nous parlions et nous étions capables d'imaginer, de fabuler, de raconter toutes les fariboles que l'on peut raconter sur son compte ou sur le compte des autres. Donc nous étions à la fois dans la nature et dans la culture. Maintenant, il y a un essai, nous sommes dans une culture beaucoup plus moniste, qui a à voir avec... le sens scientisme dans lequel nous sommes et la dénégation de la singularité de la culture. Programme moniste, c'est il n'y a plus de différence entre nature et culture. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, essayé d'expliquer que les récits, les productions narratives, des peuples, étaient simplement l'extériorisation d'un certain nombre de structures intérieures, par exemple l'architecture neuronale, et que quand ça sortait, ça s'actualisait sous des formes de récits. Et donc, on a rompu cette différence entre nature et culture. Et évidemment, si on va dans ce sens, nous sommes tous des êtres de nature, nous dénions donc la spécificité de la culture humaine, nous avons tout à voir avec le fait aussi de l'incitation au fonctionnement pulsionnel, hein, qui ferait que tout serait comme ça dans nos pulsions, dans notre nature, dans notre fonctionnement, et qu'il n'y a plus donc une part de cette culture qui peut venir par après pour pouvoir intervenir dans les déterminations naturelles. Alors par rapport à l'animal, la différence homme-animal, donc nous sommes tous d'une certaine façon des animaux, on parle de la personne animale maintenant. Et je crois que ça fait disparaître, donc ça risque de faire disparaître la spécificité de l'humain. Et donc à partir du moment où la spécificité de l'humain disparaît, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'humain. Vous pouvez, puisque c'est que des agencements de gènes, neuronaux et tout ce que vous voulez, vous pouvez aussi bien les bricoler, les faire, les défaire, les refaire, et vous vous engagez comme ça dans un programme où le post-identitaire débouche sur le post-humain, sur l'idée même d'une possible post-humanité.
Il y a quand même une barrière qui subsiste, peut-être la bestialité.
La
bestialité, enfin.
La bestialité de qui?
La zoophilie.
Ah, la zoophilie, d'accord.
Non, je dis bestialité, c'est une façon.
Oui, oui. Mais je pense que...
Vous pensez que ça a de l'avenir.
Peut-être ça a de l'avenir. Peut-être qu'il faudrait le penser comme ça, en effet. Peut-être que c'est un des... Donc ça serait un fantasme qui dit quelque chose, qui a valeur peut-être de symptôme aussi sur notre époque.
Monisme, vous dites monisme, mais c'est un monisme de l'immanence qui viendrait s'opposer, disons, à la transcendance qu'instauraient les grands récits et la séparation.
Oui, voilà, c'est ça.
On est dans cette dualité-là.
Voilà, c'est ça.
Ça explique, je veux dire, que le fait d'abandonner la notion de transcendance au profit de cette immanence, ça explique aussi qu'il faille tout confondre.
Exactement.
C'est ça le geste.
Il n'y a plus donc d'efficace ou d'efficacité propre de la transcendance, de l'instance qu'on appelait à l'époque de Kant morale, qui n'a rien de moralisant. Hein. Encore une fois, la morale, c'est pas du tout moralisant, mais c'est la disparition donc de cette instance et de l'efficacité spécifique des grands récits qui pouvaient donner des commandements, par exemple de l'imitation. Là, il n'y a plus de commandement de l'imitation. Tout est dans une nature, donc il faut suivre la nature dans tout ce qu'elle peut et la façon dont on peut aussi la bricoler.
Petite parenthèse sur la situation politique ou économique. On a l'impression aussi que ce que vous dites fait penser analogiquement, peut-être directement, à ce qui se passe dans l'économie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une naturalisation politique des événements, qu'on est de plus en plus... Cette volonté d'illimitation nous contraint concrètement de plus en plus avec ce qu'on peut constater au niveau de la crise européenne, par exemple.
Oui, absolument. C'est l'immanence, par exemple, du marché. Il n'y a rien à faire. Voilà. Le marché veut, le marché dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'instance politique. L'instance politique accompagne ceci. Mais l'instance politique n'est plus là pour, justement, réguler, réprimer ces fonctionnements avides du marché. Il faut s'arranger avec ça. Ça marche tout seul. C'est une sorte de naturalisation, là encore, des lois du marché, une sorte de... Bon, c'est un darwinisme social qui se met en place. Et il faut donc laisser faire ce marché et s'adapter, trouver donc des façons de s'adapter à ceci. Mais il n'y a plus l'idée, par exemple, d'une instance qui peut réguler tout ceci, a maintenant à peu près disparu. Il faut s'arranger avec ça. Voilà, on s'arrange comme on peut, c'est-à-dire mal.
Mais je souligne le paradoxe qui veut que cette volonté d'illimitation se traduit concrètement par le contraire.
Parce qu'à la base de l'idée de la richesse infinie et de l'illimitation avec la libération de l'avidité des pulsions, il y a un mensonge quelque part, c'est un récit mensonger parce que cette richesse infinie ne peut se heurter qu'à une finitude. La finitude des individus, la finitude des ressources de la Terre, de toutes les formes dans lesquelles la vie se déploie, c'est-à-dire ce sont des processus qui sont eux-mêmes extrêmement contrôlés. Donc on ne peut pas interagir, on ne peut pas agir là-dedans sans limite. Puisque si on agit sans limite dans ces processus extrêmement naturels, on les détruit. Et je crois qu'on détruit en ce moment beaucoup de choses. On détruit l'économie du vivant, on détruit l'économie psychique, on détruit l'économie politique, on détruit l'économie symbolique, on détruit même souvent l'économie discursive aussi, puisque ce que nous faisons maintenant, c'est nous sommes dans une économie discursive. On parle pas pour gagner de l'argent, mais on parle pour chercher de trouver du sens dans les événements, etc. Donc, je crois que toutes ces économies, grandes économies humaines dans lesquelles nous vivons, on a tendance à l'oublier puisqu'on ne considère plus que l'économie économique, si je puis dire, mais toutes ces grandes économies humaines sont en grande souffrance à l'heure actuelle.
Alors, vous plaidez pour l'invention d'un nouvel individu qui sortirait précisément de cette religion immanente et matérialiste du marché. Comment on fait ? Et deuxième question subsidiaire, est-ce que ce programme, c'est pas quand même aussi quelque chose qui risque d'affecter les singularités de chacun, puisqu'il s'agirait de créer un homme nouveau, un nouvel individu ?
Oui. Alors, bon, première réponse à votre première question. Restaurer les conditions du milieu, ça veut dire préserver le milieu, ces différents milieux, ces différentes économies dont je viens de parler, qui sont en souffrance, toutes. Il n'y a pas simplement que le vivant ou disons ce dont s'occupe l'écologie. Il faut une écologie générale. Il faut une écologie dans le domaine psychique, politique, une écologie politique au sens qui préserve donc l'idée qu'il faut une régulation par rapport à des processus incontrôlés. C'est exactement, ça marche le marché. Hein. Je dis pas que ça marche pas. Ça marche très bien. Ça marche même trop bien le marché. C'est ça le problème du marché, c'est que ça marche trop bien. C'est comme une centrale atomique, hein, ça marche très très bien une centrale atomique. Mais si vous la laissez fonctionner toute seule, sans la contrôler, elle s'emballe et elle détruit tout, ça devient une bombe atomique. Donc il faut contrôler tout ceci. Pour contrôler ceci, il faut un pilote à bord. C'est pas une personne, c'est une instance. L'instance qu'on a su créer en Occident depuis toujours, c'est la République, c'est le politique qui est le représentant donc des intérêts de la collectivité dans le foisonnement conflictuel des intérêts privés. En ce moment, il n'y a qu'un foisonnement conflictuel des intérêts privés. Il n'y a plus d'instance politique qui décide.
Ce retour de l'instance politique collective, est-ce que ça ne va pas porter atteinte à, aux singularités, aux individus?
Mais justement, non.
Pourquoi moins qu'avant? Parce que c'est quand même ce qui s'est produit plusieurs fois.
Oui, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a eu il y a bien sûr eu des formes d'État, des États fascistes, staliniens, nazis, autoritaires, etc., qui ont absolument tué toute forme qui est la forme donc où l'individu peut se manifester. Donc c'est pas ça du tout que je dis, c'est recréer les milieux pour que l'individu puisse à nouveau s'épanouir. Je vais même plus loin, je dirais que depuis un siècle, on n'a jamais vu encore venir l'individu parce que le milieu a été détruit. Il a été détruit par les fascismes et par le nazisme qui fusionnaient l'individu dans la masse ou dans la race supérieure, supposée supérieure. Il a été détruit dans les stalinismes par le fait qu'il ne fallait plus que chanter les lendemains qui devait absolument venir, donc il fallait que l'individu se taise. Et maintenant l'individu, dans la période libérale, ultralibérale ou néolibérale, comme on veut, dans laquelle nous vivons, dans le libéralisme d'aujourd'hui en tout cas, l'individu est réduit à son fonctionnement pulsionnel. Pourquoi? Ben justement parce qu'il n'a plus ces différents milieux dans lesquels il peut s'épanouir. Et donc il faut absolument qu'une instance collective recrée ces différents milieux. Ces différents milieux, c'est aussi bien l'école, c'est la culture, c'est cette instance qui est en train de disparaître, dont on parlait, cette culture, qui donc amène les individus à sortir de leur fonctionnement pulsionnel pour pouvoir donner un sens. Ça ne veut pas dire que les pulsions, c'est affreux, c'est moche, il faut s'en débarrasser, etc. Au contraire, c'est beau les pulsions, c'est la vie qui coule en nous.
Il faut qu'elles soient contrôlées.
Mais c'est un torrent, si vous voulez. Un torrent, bon, vous voyez ce que ça peut faire quand ça va trop vite, ça dévaste tout. Donc il faut qu'elle puisse être construite, contrôlée, maîtrisée, pour que ça donne, au lieu, par exemple, quand quelqu'un est en colère, qu'il casse tout, que, par exemple, il puisse faire un discours qui est un discours construit, où il va exprimer ses points de désaccord, etc. Ça, on ne sait plus le faire maintenant. Il y a même dans le social le plus, quotidien.
C'est vrai qu'on a même du mal à ce que le conflit se manifeste.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Les arguments.
Voyez la façon dont maintenant les relations sociales sont devenues extrêmement tendues, extrêmement dures partout. C'est que les gens sont réfugiés dans ce fonctionnement pulsionnel et n'ont plus cette discursivité qui leur permet donc de donner sens à leurs affects et à leurs pulsions. Donc c'est ça qu'il faut restaurer. C'est ça la restauration des milieux de la culture, dans les différents milieux, des différentes économies, qui va pouvoir faire en sorte que l'individu, enfin, qui n'existe plus depuis un siècle, d'une certaine façon, apparaisse enfin. Donc c'est un État modeste qu'il nous faut, c'est pas du tout un État autoritaire. C'est un État extrêmement modeste, mais un État qui joue son rôle de régulateur par rapport à aux intérêts privés qui ne cessent de s'affronter et qui détruisent tout sur leur route.
Vous venez de donner donc la philosophie générale de du dernier chapitre de votre livre programmatique dont je parlais tout à l'heure, intitulé « 30 mesures d'urgence pour créer le milieu offrant à chacun quelques chances de se réaliser comme individu, on l'aura compris, c'est ce que vous venez de dire. J'avais noté donc ce point sur l'État, hein, pour que l'État, le point 29, pour que l'État soit reconstruit, il faut cesser de le rendre dépendant de la dette publique détenue par la pléonexie mondiale.
Oui.
Bon, vous allez nous expliquer ce que c'est que la pléonexie mondiale, mais avec cette histoire de dette publique, on peut peut-être terminer là-dessus, sur ce point d'actualité.
Oui, ben bien sûr, c'est un point d'actualité.
Comment est-ce qu'on fait pour précisément cesser de rendre l'État dépendant de cette dette publique?
Ben écoutez, il y a sûrement un certain nombre de moyens, certains moyens qui ont été expérimentés dans d'autres pays. Tout d'abord, une définition, la pléonexie, c'est un joli beau terme qui vient des Grecs.
C'est vous qui l'avez inventé, non?
Non, c'est Platon. c'est beaucoup mieux que moi.
Ça veut dire?
Alors, pléon, plus, échène, disons-le à la française, avoir. Donc, c'est avoir plus. En fait, c'est avoir toujours plus. C'est ça, la pulsion d'avidité. Et tout le grand texte de Platon, La République, est construit autour de la nécessité de maîtriser cette avidité, cette pulsion d'avoir toujours plus, parce que ça détruit à la fois l'être soi et ça détruit l'être ensemble. Donc il faut s'organiser pour maîtriser cette pulsion qui existe toujours. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, elle existe toujours, mais il s'agit de se donner des instances qui vont pouvoir la réguler, c'est ça. Alors, donc, là, on vit dans une époque extraordinairement pléonexique, puisque donc ce qui domine, je l'ai assez dit, c'est l'idée qu'il faut toujours plus. Les marchés veulent toujours plus. Il n'y a jamais assez. Ils veulent toujours plus. Ça se solde par le fait qu'il y a des destructions totales de tissus économiques. Et à la limite, le marché est en train de se détruire lui-même, puisqu'il détruit les lieux sur lesquels il est en train de prospérer. Ouais, on voit par exemple ce que ça donne en Grèce.
Ouais, hein. C'est là la contradiction des agences de notation qui disent il faut réduire les déficits, mais en même temps, il faut quand même de la croissance.
Il faut relancer la croissance en réduisant les déficits. Voilà, donc c'est un véritable chaos cognitif. Hein.
En tout cas, c'est une injonction.
Le marché est fou, c'est une injonction paradoxale, une injonction folle, contradictoire. On ne peut pas réduire et augmenter en même temps. On ne peut pas freiner et accélérer en même temps.
Revenons pour finir sur cette histoire d'État nouveau, à la fois modeste et qui ressaisirait tout ça d'une manière cohérente. Je sais pas, quelle est... Bon, ça, c'est l'idée. Maintenant, comment on passe de là où on est concrètement à cette idée-là? Ça passe par quel chemin? Est-ce que ça passe par...
Mais écoutez, si l'État ne...
Ça passe par la politique?
Oui, bien sûr. Si l'État ne joue plus son rôle régulateur, c'est qu'il est soumis, justement, au fonctionnement pléonexique du marché, qu'il ne fait que l'accompagner. Donc, il faut que l'État cesse d'être vendu à tous les sens du terme, au sens populaire du terme, mais au sens aussi réel du terme, et cesse d'être vendu donc aux marchés financiers, aux différents marchés financiers, et à ce que j'appelle la pléonexie internationale.
Mais ça veut dire qu'il faut voter pour quelqu'un? Ou est-ce que c'est hors du champ politique? Non, mais je veux dire, est-ce que le politique peut amener à ça?
Je pense qu'il
par l'élection,
peut-être. Il faut bien espérer qu'il y a dans le champ politique un certain nombre, je ne dis pas un, mais il y a sûrement de toutes les bords. Hein, ça peut être peut-être droite républicaine, gauche républicaine, certaines formes du centre, je ne sais pas, sont dans une... sentent bien qu'on ne peut pas laisser les États-nations à la merci des marchés qui sont en train de détruire tout, le tissu industriel, les individus, les personnes, les économies, etc.
Ça passe aussi par la prise de conscience et une révolution individuelle.
Bien sûr. Alors, il y a eu des exemples. Hein. Je ne sais pas, on peut jouer modérément de l'inflation, on peut jouer modérément du protectionnisme, on peut faire racheter une partie de la dette internationale qui est due, donc la dette souveraine qui est due aux marchés internationaux, aux marchés financiers, on peut la faire racheter de façon intérieure. Je vous signale que c'est exactement ce qui s'est passé au Brésil, et c'est pour ça que le Brésil, qui était l'un des pays les plus endettés du monde en 2002, est devenu un pays aussi dynamique maintenant. C'est parce que le président Lula a réussi à faire racheter la grande partie de la dette qui était due donc à la finance internationale par les familles brésiliennes, des familles évidemment riches, mais des familles plus modestes aussi. Et donc, évidemment, les individus ne jouent plus contre leur pays. Ça se passe aussi ailleurs, par exemple.
En Italie, je crois que c'est en train de se faire.
Ah, c'est en train de se faire. Au Japon, par exemple, la dette est de 200% du PIB. C'est une dette gigantesque. Et pourtant, on entend peu parler du Japon, parce qu'il ne peut pas être menacé par le marché, puisque la dette n'appartient pas au marché. Donc, il faut que les habitants d'un pays soient propriétaires de leur pays. Et donc, s'ils ont une dette, également, ils savent qu'ils peuvent, on leur doit quelque chose, et ils peuvent prendre soin de leur pays. Je crois que l'idée de soin est une idée aussi importante, et ce n'est pas le marché qui peut prendre soin des individus.
Dany Robert Dufour, l'individu qui vient après le libéralisme.